Wikileaks a fait beaucoup parler de lui cette semaine. Le site internet, en affichant sur la place publique de nouveaux documents confidentiels ou classés secrets, a provoqué la colère de plusieurs gouvernements et de nombreuses voix se sont élevées pour dénoncer ce grand déballage. Parmi elles, celle de Dominique Volton, directeur de l'Institut des sciences de la communication du CNRS, qui sur notre antenne pointait du doigt les médias qui ont une part de responsabilité dans cette affaire.
Il faut toujours vérifier les sources. Et là, manifestement, les journalistes ne peuvent pas, parce que par définition, ce sont des télégrammes plus ou moins secrets. Donc ils ont failli à leur principale mission. Deux, le boulot, dans un univers saturé d'informations, le boulot des journalistes sera encore plus qu'avant de ne pas tout rendre public. Et si jamais certains journaux font de la concurrence déloyale en rendant tout public, eh bien je pense que ça leur retombera sur la figure. Et ne pas rendre tout public, ça ne veut pas dire qu'on fait d'autocensure, ça ne veut pas dire qu'on est hypocrite, ça veut dire qu'on sait très bien qu'on ne peut pas vivre dans un univers constamment de délation. Que les journalistes remettent en cause les discours diplomatiques, c'est tout à fait normal. Mais ce n'est pas la même chose que d'aller chercher les informations, enfin, je ne sais pas qu'elles veulent, et de les rendre publiques.
La Russie, sur le chemin de l'adhésion à l'OMC, Moscou a conclu mardi dernier un accord avec l'Union européenne qui dégage un obstacle important sur la voie de son adhésion à l'Organisation mondiale du commerce. Un objectif poursuivi laborieusement depuis 17 ans par le gouvernement russe et qui semble désormais à portée de main. Il pourrait intervenir dès l'an prochain. Pour Jacques Sapir, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris, cet accord n'aura pas beaucoup d'incidence sur les relations entre l'Union européenne et la Russie.
La Russie souhaite être associée au processus de l'Union européenne. Et comme la Russie constate que l'Union européenne est très malade, la zone euro elle-même est très malade, elle va plutôt privilégier des relations bilatérales avec un certain nombre de pays, avec l'Allemagne, avec la France, avec l'Italie, plutôt que des relations avec l'Union européenne. Mais pour pouvoir privilégier ces relations bilatérales, elle a besoin d'un espèce de chapeau général. Et si vous voulez, ce chapeau sera fourni par ses relations avec l'Union européenne.
L'actualité de cette semaine a également été dominée par la remise du prix Nobel de la paix ce vendredi à Oslo, un prix déposé sur une chaise vide. Le lauréat Liu Xiaobo, dissident chinois emprisonné, n'a pas été autorisé à aller chercher sa récompense. La Chine, qui ne décolère pas, a qualifié de clown les membres du comité Nobel. Elle a par ailleurs repoussé sine die des négociations prévues avec la Norvège en vue de l'établissement d'un accord de libre-échange bilatéral. Cette réaction violente traduirait-elle une certaine crainte? Nous avions posé la question à Antoine Kernen, professeur à l'Institut d'études politiques et internationales de l'Université de Lausanne, auteur de nombreuses études sur la Chine.
Oui, la Chine a peur d'un certain risque d'instabilité. Il faut peut-être rappeler que ce prix Nobel s'est pas passé inaperçu en Chine, hein. Notamment dans les milieux dissidents, les milieux intellectuels, c'était un signe fort. Je pense qu'il symbolise une certaine modération par rapport au pouvoir. C'est pas un extrémiste, c'est quelqu'un qui a toujours été modéré, conciliant. Donc je pense qu'il y a un peu un signe comme ça, d'avoir voulu montrer un dissident raisonnable.
Les chrétiens irakiens ont prié pour leur mort. Une messe a été célébrée ce vendredi dans la cathédrale syro-catholique de Bagdad, 40 jours après l'attaque meurtrière qui avait fait dans cette église 46 morts, dont deux prêtres. Pascal Warda, chrétienne irakienne, ancienne ministre et porte-parole de l'organisation des droits de l'homme Hammurabi, a assisté à la cérémonie. Elle évoquait un grand moment de communion.
C'était un grand moment de communion dans le sens où tout le monde était là dans un recueillement exceptionnel. C'est là où l'union chrétienne se voit. C'est l'union parfaite des églises dans la souffrance. Et là où le mystère que les pères de l'église n'ont pas manqué à dire, comme si l'église attendait les souffrances pour s'unir. Eh bien, je le disais à nos prélats ici en disant, mais quand on vous voit unis, c'est que dans les malheurs, s'il vous plaît, soyez unis dans les bonheurs aussi pour qu'on soit plus fort et plus présent, que les gens ne perdent pas l'espoir.
Dimanche dernier, à l'issue de la prière de l'Angélus, Benoît XVI avait lancé un appel pour que cessent les situations de violence, d'intolérance et de souffrance dans le monde. Le pape avait évoqué les drames vécus en Irak, en Égypte, mais aussi en Érythrée. Des dizaines d'immigrés érythréens, dont des femmes et des enfants, sont retenus en otage dans le désert du Sinaï. Leurs ravisseurs ont exigé une rançon pour leur libération et menacent de les exécuter. Nous avions recueilli le témoignage de Don Moussi Zeraï, président de l'ONG Abéchia, en contact par téléphone avec certains migrants. Ils nous rapportaient leurs conditions de vie.
Une Ils sont enchaînés, affamés, car ne mangeant pas depuis plusieurs jours, continuellement soumis à de mauvais traitements. Voilà la situation et ils me racontaient que leurs ravisseurs sont assez nerveux, en particulier à cause de l'ampleur que cela commence à prendre au niveau médiatique, notamment après l'appel du pape. Les otages craignent maintenant que s'ils ne sont pas rapidement libérés, ils soient déplacés dans un autre lieu qui resterait secret.